plume et sa cause.
Et si les grands esprits du passé avaient encore leur mot à dire sur notre présent ?
Bienvenue dans Une plume et sa cause, l'émission où les auteurs d'hier débattent des enjeux d'aujourd'hui. De Victor Hugo à Balzac en passant par Sand, nous entendons les voix intemporelles de la littérature pour éclairer notre époque.
À travers des interviews fictives et analyses engagées, découvrons ensemble la puissance des mots et leur résonance dans nos luttes actuelles.
Ouvrez vos esprits, affûtez vos plumes, la conversation commence maintenant.
Aujourd'hui avec nous, Victor Hugo. Que penses-tu de la montée de l'extrême droite aux États-Unis avec les nouvelles élections, retour des discours nationalistes et xénophobes ?
Donc il y a des discours qui... Donc l'État invoque la peur des étrangers, donc la xénophobie, ainsi que le racisme et plusieurs choses. Donc je pense que c'est un vrai pas en arrière dans l'humanité et j'appelle plutôt aux hommes de la fraternité et ce sentiment vraiment d'être frère.
Dans ton discours de 1949, tu dis « espérer la paix entre les pays », je cite « un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et l'Europe, placés face à face, se tendant la main par-dessus les mers ». En tant qu'écrivain engagé, quel message pour les Américains souhaites-tu délivrer sur la montée de la droite dans leur pays ?
Aujourd'hui, il ne faut pas se laisser emporter par ces discours qui séparent et divisent. Il ne faut pas se laisser aller par ces idéologies extrémistes qui nous emmènent dans la peur de l'isolement et la répression. L'avenir se trouve dans la solidarité et dans l'ouverture.
Ces événements peuvent pousser quelqu'un à quitter son pays. Vous avez été vous-même exilé. Quel ressenti d'abandonner son pays par des principes ethniques et des idéologies républicaines afin de pouvoir mener des combats pour l'inégalité sociale.
Donc oui, j'ai été exilé, j'ai dû fuir ma patrie, mon pays que j'aime, mais donc là-bas, je ne peux pas défendre mes idées de la devise, donc liberté, égalité, fraternité, surtout j'insiste sur fraternité. Et donc là-bas, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Les Châtiments, donc qui parle de l'oppression sous Napoléon III.
Mais aussi, que pensez-vous du discours sur le repli de soi et la méfiance envers les étrangers ?
Lors de mon discours pour la paix au Congrès en 1849, je citais « La loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Je suggère une vision d'unité et de coopération entre la nation pour démonter les idéologies nationalistes et xénophobes. »
Donc oui, j'appelle à la vigilance des discours de haine. Et voilà. Et donc aussi, je ferai la promotion plutôt des discours de tolérance, de solidarité, ainsi que de paix.
Merci Victor Hugo d'avoir répondu à toutes nos questions avec franchise et pour vos idées lumière. À tout de suite pour l'interview avec Dumas. Au revoir Victor Hugo.
Merci à vous. Une plume et sa cause.
D'abord, puis-je vous tutoyer ?
Oui, bien sûr.
Que pensais-tu de la montée en puissance de l'extrême droite en Italie ?
Cette montée de l'extrême droite en Italie me déçoit fortement, car ça ne représente pas du tout les valeurs que j'ai revendiquées durant toute mon existence. Et de plus, j'ai combattu en Italie. Donc c'est une nation pour laquelle j'ai un attachement particulier. Et dans mon histoire, par exemple, des Trois Mousquetaires, j'ai évoqué que j'étais contre la favorisation des riches, donc ce que favorise l'extrême droite, car les mousquetaires défient et se combattent contre les riches. Donc j'ai essayé de défavoriser le fait que les riches soient en avant par rapport au reste du peuple.
Ah, très bien, je ne savais pas. Sinon, à l'avenir, continueriez-vous à défendre ce droit contre la droite ?
Bah, pour l'instant, mes idées sont très claires. Je suis contre, mais je ne suis pas exposé. Je compte publier des articles ou des images plus tard, mais pour l'instant, c'est un peu trop risqué pour ma vie.
Et pourquoi n'exposes-tu pas tes idées ?
Pour le moment, je ne préfère pas les exposer, car à l'époque, je me suis opposé à la monarchie. Cela m'a mis en danger, et donc j'ai dû fuir mon pays. pour aller en Belgique. Et de plus, en ce moment, Paul Watson, qui lutte contre la chasse des baleines, a été emprisonné pour ça. Donc pour le moment, je ne préfère pas prendre ce risque.
Ok. Et si tu étais mené à résister, comment le ferais-tu ?
Très bonne question. Tout d'abord, je commencerai par divulguer les crimes que font l'extrême droite envers les populations défavorisées qui fuient leur pays en guerre. Et je ferai des textes, des images, tout ça.
Ok, très bien. Bon, bah, merci Monsieur Dumas et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Une plume et sa cause.
Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Eugène Delacroix, artiste, et Maïva Vincent, experte en politique. Maïva, peux-tu nous rappeler les événements récents qui se sont passés en Syrie ?
Oui, alors tout d'abord, après 13 ans de répression et de violence sur la population syrienne, les offensives ont su faire face à Bachar el-Assad qui a donc tombé, actuellement la population syrienne se sent libérée, mais la politique du pays reste encore à redéfinir.
Quelles pourraient être les conséquences pour la Syrie ?
Les conséquences pour la Syrie, tout d'abord, il y a déjà un vide politique, une instabilité. Il risque d'y avoir des représailles. Les alliés d'Assad risquent de trouver un nouveau leader pour gouverner le pays. Il risque d'y avoir des tensions internationales et beaucoup de répercussions également sur l'avenir du pays.
Eugène, que penses-tu du renversement de Bachar el-Assad ?
Pour moi, ce renversement, je suis extrêmement fier puisque je soutiens souvent les peuples, notamment lors de la Révolution française également, où j'avais soutenu le peuple contre le pouvoir. Et là, en Syrie, ce qui se passe, c'est à peu près la même chose, donc je suis tellement fier, même si cela, évidemment, aurait pu se passer dans d'autres conditions, puisque les conditions qui se sont passées, évidemment, ce ne sont pas les conditions attendues avec beaucoup de morts, malheureusement. Mais c'est le parti pris à prendre pour avoir une liberté dans ce pays, puisque ça fait quand même quelques années, voire beaucoup trop d'années malheureusement, où le peuple n'a pas de liberté. Et donc là, ça fait plaisir de voir exprimer leur opinion et donc de renverser ce pouvoir.
Tu as peint la liberté guidant le peuple. Est-ce que cette œuvre pourrait représenter ce qui se passe en Syrie ?
Oui, parfaitement, puisque ce sont par exemple deux mêmes révoltes, la Révolution française et là, ce qui se passe également en Syrie. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes époques, mais ce sont les mêmes choses, contre le peuple, contre des idées opprimantes du pouvoir. Donc oui, je pourrais.
Si tu devais peindre ce qu'il s'est passé, comment le représenterais-tu ?
Je le représenterais, du coup, comme j'ai dit, un peu comme la Révolution française, c'est-à-dire au premier plan, un homme du peuple portant le drapeau de la Révolution syrienne, qui est maintenant, depuis plusieurs années, la célébration en Syrie, qui est vraiment le symbole de la célébration en Syrie. Donc je mettrais vraiment en lumière cet homme au premier plan. Ensuite, au second plan, je peindrai une foule avec des armes en train de se battre. Et puis, j'insisterai aussi sur des cadavres jonchant le sol, puisqu'il y a quand même eu énormément de violence. Et c'est ça qui doit traverser l'esprit de ce tableau. Et au dernier plan, je mettrai quelques bâtiments syriens en feu pour vraiment insister, comme j'ai dit, sur la violence de ce qui est en train de se passer en Syrie. Puisque oui, dans certains pays, la liberté n'est pas encore atteinte pour tout le monde. En France, on a la chance que le peuple soit libre. Mais en Syrie, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment insister sur la violence qui se passe en Syrie. Donc, voilà.
Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Une plume et sa cause.
Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un des plus grands poètes français, Charles Baudelaire, pour nous partager son opinion et son ressenti par rapport à l'ouragan Chido et à l'abandon de la population par l'État. Bonjour Charles Baudelaire.
Bonjour, je suis très heureux de partager mes idées avec vous. Ce sujet me semble très sombre, mais je suis quand même très content d'être là.
Tout d'abord, permettez-moi de vous demander si l'on peut se tutoyer.
Peu m'importe.
Très bien, je vais donc te tutoyer. C'est effectivement un sujet difficile. L'ouragan Chido a causé de lourdes pertes humaines et matérielles et la population se sent laissée pour compte par l'État. Dans ton recueil de poèmes, Les Fleurs du Mal, dans certains poèmes, tu abordes la souffrance et l'injustice. Quel est ton regard sur cette situation ?
L'ouragan Chido est certes une catastrophe climatique très grave, mais il y en a de plus en plus de cette sorte. Ce qui me semble le plus grave, c'est l'abandon fait par les institutions françaises et que le gouvernement français ne fait que des discours et pas d'éléments concrets.
Tu parles d'indifférence des États dans ce genre de situation. Certains diront que c'est une question de ressources ou de gestion des crises, mais toi, que penses-tu de cela et quel est ton avis sur le sujet ?
Je trouve que ces ressources qui sont certes limitées, ce n'est pas une excuse pour l'inaction. Ce qui manque ici, c'est l'argent ou les moyens, mais c'est aussi la réelle volonté de se préoccuper de la souffrance humaine. L'État, actuellement, se préoccupe plus de sa propre image que la réalité du monde.
Qu'est-ce qui pourrait te rapprocher des Mahorais et de ce qu'ils vivent ?
J'ai moi-même vécu dans les îles contre mon gré. J'y ai vu la misère, l'abandon de l'État français et l'isolement. C'est pourquoi je comprends tout à fait ce qu'ils vivent.
Tu sembles assez sévère dans tes jugements, mais y a-t-il encore une place pour l'espoir après de telles catastrophes ? Ou à l'inverse, sommes-nous condamnés à vivre dans cette indifférence ?
L'espoir, il est là, oui, mais il est fragile. Il se trouve dans les hommes qui continuent à lutter, à se relever, à créer et à se battre. Il est toujours là, oui, mais dans la souffrance.
À ces âmes perdues, je dirais, ne perdez pas la foi en vous-même. Le monde peut être cruel, mais ce n'est pas la douleur que l'on trouve dans la guerre. L'État, l'institution peut te tourner le dos, mais vous avez la capacité de vous relever, de créer, de trouver des solutions. Là où tomber détruit la beauté, naît souvent le chaos.
Merci Charles, en tout cas, pour tes mots pleins de vérité et de poésie. C'était un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Merci à toi aussi. Que la poésie guide ceux qui veulent comprendre ce monde troublé.
Une plume et sa cause.
Et maintenant, sujet brûlant, l'IVG, menacé dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Aujourd'hui, nous avons deux invités spéciales, Madame George Sand, écrivaine féministe, et Monsieur Jean Morel, professeur spécialisé en santé politique. Un petit point contexte avant tout commencement de l'IVG. En France, jusqu'au XXe siècle, l'avortement fut puni, notamment avec la loi du 31 juillet 1920, qui interdit l'IVG et les droits à la contraception. En 1970, les rôles s'inversent. Le combat pour les droits des femmes s'intensifie, notamment avec Simone Veil, ministre de la Santé, et Madame Gisèle Halimi, avocate, militante et femme politique, pour arriver à la loi Veil en 1975, où l'IVG est légalisée. En Amérique, c'est différent. En 1973, l'IVG rentre dans la Constitution par la Cour suprême, mais ses droits sont malheureusement rétorqués par Donald Trump, dit anti-IVG.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Avec la décision en 2022 de la Cour suprême américaine, plusieurs États réduisent ou interdisent l'accès à l'IVG. Professeur Morel, quelles sont les conséquences ?
Alors, les conséquences de cette loi sont beaucoup plus de pression mentale et psychique sur de nombreuses femmes. Il y a plus d'enfants et de grossesses indésirées, et le nombre d'IVG clandestins augmente beaucoup, parce que c'est la seule façon d'avorter.
Monsieur Morel, peux-tu nous faire un petit point chiffre sur l'IVG ?
Bien sûr. Dans le monde, chaque année, il y a 43,8 millions d'IVG. Aux États-Unis, c'est 511 000 IVG chaque année. Et en France, c'est 243 000. La loi aux États-Unis empêche donc 511 000 femmes d'avorter chaque année.
Madame Sand, est-ce que les idées contre l'IVG seraient-ce un retour en arrière pour les femmes ?
Pour moi, évidemment que c'est un retour en arrière, c'est totalement scandaleux. J'ai consacré ma vie, comme plein de femmes, à combattre l'oppression. Et deux siècles plus tard, on en entend encore parler. C'est un débat qui est non actuel et je ne comprends pas pourquoi je suis encore ici pour en débattre. Le corps des femmes, c'est leur choix et pas ceux des hommes. Ils n'ont pas le droit à parler sur ce sujet. C'est un droit durement acquis. L'IVG est un ultime recours dans des situations sans issue. Mes journaux, mes ouvrages, mes articles ont milité pour les femmes et les voix qu'on n'entend pas assez, comme Leïla. Notre combat n'a-t-il donc été inefficace ? En parlant de votre livre, Leïla, voici un extrait particulièrement marquant. En réduisant les femmes à l'esclavage pour se les conserver chastes et fidèles, les hommes se sont étrangement trompés. Nulle vertu ne demande plus que force que la chasteté, et l'esclavage énerve. Les hommes le savent si bien qu'ils ne croient à la force d'aucune femme. Alors, si tu avais pu défendre l'IVG ouvertement à ton époque, l'aurais-tu fait ?
Évidemment, je serais descendue dans les rues même. Les femmes du monde, il faut que vous soyez solidaires. Cette cause est commune et elle nous concerne toutes. Vous avez peur ? Moi aussi, j'ai eu peur de la prison, de la censure, des exécutions publiques ou même de la décrédibilisation. La peur doit changer de camp. C'est notre droit, revendiquons-le, que les années de lutte ne soient pas oubliées. L'homme a peur de la révolte, et bien qu'ils aient peur, nous ne reculons pas.
Madame Sand, aurais-tu un dernier mot pour les téléspectatrices qui nous écoutent ?
Je dirais aux femmes qui nous écoutent, aux auditrices, de ne jamais se taire. L'inaction est le pire ennemi du progrès, et surtout, restez solidaires.
Et c'est sur ces belles paroles qu'on vous remercie de nous avoir écoutés.
Une plume et sa cause.
Je voudrais remercier Gérard de Nerval pour être venu pour assister à notre interview. Mais faut savoir que Gérard de Nerval, c'est un poète qui a écrit plusieurs registres de poèmes très connus, comme les Chimères par exemple. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de littérature, mais plutôt d'un fait d'actualité. C'est le soulèvement de Bachar el-Assad en Syrie qui s'est déroulé le 8 décembre 2024.
Gérard, tu as passé un long moment à voyager en Orient, ce qui t'a permis d'ailleurs d'écrire ta série de livres Voyage en Orient. Et tu as passé également un temps en Syrie à découvrir la culture et le peuple. Qu'est-ce que tu peux me dire des guerres civiles qui ont eu lieu dans la capitale récemment ?
Alors ça, c'est une très bonne question, car je pense qu'avant mon voyage en Syrie, mon avis aurait été totalement différent, car aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec le peuple de renverser le gouvernement de Bachar el-Assad, qui, il faut le dire, est un dictateur qui terrorise et menace la population. Après, c'est un avis qui aurait changé avant mon voyage en Syrie et avant d'avoir pu parler et rencontrer les habitants syriens.
Tu te revendiques comme une personne plutôt de gauche, mais étant donné les idéologies de Bachar el-Assad, qui est d'un côté plutôt socialiste avant de virer d'un côté plutôt d'une dictature, est-ce que tu es d'accord avec cette idéologie ?
En aucun cas, je suis d'accord avec toutes ces pratiques. Je suis certes de gauche, mais lui est d'extrême gauche. L'extrême, qu'elle soit de droite ou de gauche, n'est jamais bénéfique pour un peuple. Ses manières dictatrices sont loin d'être bonnes pour le pays et pour tout ce qui l'entoure.
Donc, je suppose que pour toi, c'est légitime pour le peuple de renverser le gouvernement ?
Alors oui, pour moi, c'est totalement légitime de renverser le gouvernement, car Bachar el-Assad faisait vivre des horreurs aux habitants. Et ayant vu les citoyens pendant mon voyage en Syrie, je peux vous dire qu'ils ne méritent pas d'être traités de la sorte.
Tu nous as dit que tu avais 17 religions en toi, mais est-ce que celle de Bachar el-Assad fait partie d'une d'entre elles ?
Je ne peux pas dire que j'ai 17 religions, mais seulement une qui les englobe toutes, parce que pour moi, il ne sert à rien de choisir si on peut tout avoir. Celle de Bachar el-Assad est présente dans les miennes, dans mes croyances, dans tout ce que j'y crois, mais elle n'est pas la seule. Je suis d'accord avec ses idéologies, mais je pense qu'il ne sert à rien de choisir et qu'on pourrait tout prendre.
Très bien. Merci d'avoir pris part à cette conversation. C'était très intéressant. Merci à vous, Monsieur Nerval.
Une plume et sa cause.
Nous allons maintenant parler du conflit israélo-palestinien qui oppose le Hamas contre l'Israël. Et il se situe dans la bande de Gaza et il a débuté le 7 octobre 2023. Et tout ça, ça engendre des conséquences dans le monde. Et on va parler de tout ça avec le grand Théophile Gauthier. Bonjour Théo.
Bien bonjour.
Alors Théophile, commençons par parler de ta philosophie de l'art. Tu nous dis dans Mademoiselle de Maupin, il n'y a vraiment beau que ce qui peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Peux-tu expliquer cette citation à nos auditeurs lycéens ?
Eh bien, tu mets le doigt sur l'essentiel. Sache que l'art doit être libre pour révéler sa vraie beauté. Et dès qu'il sert un but, il devient outil et perd son âme.
Et qu'est-ce que tu penses des conflits contemporains comme le conflit israélo-palestinien ?
Ah ça, c'est une tragédie qui traverse les décennies. Entre espoir brisé et violence, il façonne l'histoire moderne.
Et est-ce que tu penses que l'art a un rôle à jouer dans le conflit ?
Oui, bien sûr que mon art pourrait servir. Tout simplement sur le fait que, est-ce qu'on se souvient des généraux durant la guerre civile pendant l'Antiquité sous Auguste ?
Mais...
Tout simplement car il y a... Virgile, lui, en arrive à s'en souvenir parce que lui, il marque ses mots, enfin les âmes avec ses mots.
Mais ce discours est complètement détaché de la réalité politique.
La réalité politique, pour moi, c'est un océan instable. J'écris pour rappeler que l'on vaut mieux que la guerre. Et s'il y avait autant d'art que d'armes, le monde ressemblerait à une galerie et non pas une ruine.
Est-ce que tu pourrais nous dire une dernière phrase ou un dernier mot pour conclure ?
Si je devrais nous donner une dernière phrase, ce serait qu'il faudrait arrêter de mourir pour la pierre et vivre pour le poème.
Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Et merci à toi, mon cher Théo.
Pas de souci.
De tes argumentations et explications sur le conflit israélo-palestinien. Bisous.
Une plume et sa cause.
Nous sommes maintenant avec Honoré de Balzac qui nous fait l'honneur de sa présence ici aujourd'hui avec nous. Comment vas-tu ?
Bien et vous ?
Très bien, merci beaucoup. Je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as eu des problèmes pour envoyer des messages à ta copine russe Evelina depuis le début de la crise en Ukraine ?
Oui, j'ai eu des gros soucis pour communiquer avec Evelina. En effet, avec la guerre, les lignes téléphoniques pour communiquer avec elle étaient bombardées sans cesse. Et je ne pouvais donc pas lui communiquer avec elle et j'étais très triste.
Et quel est ton avis sur cette guerre ?
Alors pour moi, la guerre est un acte barbare. Hein. On tue des civils, on détruit des populations et notamment on détruit des relations à distance, comme dans mon cas. J'en avais déjà parlé dans mon livre « La recherche de l'absolu » qui a été publié en 1834, excusez-moi. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas forcément contre la guerre, je suis plutôt contre comment c'est fait.
Et est-ce que cette guerre a-t-elle modifié la façon dont tu écris ?
Oui, elle a modifié ma façon d'écrire, comme j'ai pu déjà rédiger un livre, comme le colonel Chabert, publié en 1832, où j'évoquais les horreurs de la guerre, mais c'est que le problème, c'est que je ne connaissais pas réellement la réalité de la guerre, et celle en Ukraine est bien plus terrifiante, dont le nombre de morts, 80 000 pour les Ukrainiens et 200 000 pour les Russes, mais aussi également l'atrocité des soldats abattus par les obus.
Et enfin, si tu devais écrire un roman qui parlait de cette guerre, quel en serait le titre ainsi que sa morale ?
Très bonne question. Si je devais avoir un titre pour un livre à propos de la guerre, je l'appellerais « La terrible guerre », pour principalement faire un parallèle à mon livre « Mémoire de deux jeunes mariés », qui donc parlait des émotions dues à la guerre, aux dégâts et aux relations à distance. Et pour finir ça, il y a une phrase en tant qu'écrivain que j'adore particulièrement, c'est « Faites l'amour, pas la guerre ».
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Honoré.
Bon, Basile, les interviews elles sont maintenant terminées, on a entendu tous les auteurs, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Eh bien oui, c'était très intéressant d'avoir le point de vue des romantiques à notre époque. Et cela peut être inspirant dans le monde d'aujourd'hui. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah, je suis trop d'accord avec toi, franchement, c'était grave bien. Et maintenant, on se retrouve...
Voilà, donc c'était l'émission Une plume et sa cause. Merci d'avoir tendu l'oreille aux voix du passé et à la prochaine.
On se retrouve bientôt pour des nouveaux lives sur Delta FM.
Une plume et sa cause.